Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert.
De retour sur Sud Radio dans le 10h midi, 11h midi, nous commentons l'actualité. Vous retrouverez ensuite André Bercoff à partir de midi. Aujourd'hui, pour débattre et commenter l'actualité, Benjamin Lucas, membre de Génération.S, ancien président du mouvement des jeunes socialistes. Bonjour. Jean-Luc Benamias, président du Front démocrate. Vous êtes toujours membre du CESE ?
Oui, toujours, merci. Oui, membre, je suis très bien même.
Conseil économique, social et environnemental. Non, mais parfois, il y a des erreurs. Et alors, je sais qu'il y en a qui y étaient, ouais. Qui n'y sont plus, mais vous y êtes toujours. Oui. Christiane Villeneuve, journaliste, éditorialiste politique, bonjour. Bonjour. Arnaud Benedetti, professeur à la Sorbonne, spécialiste en communication politique. Et votre dernier livre, La fin de la com, aux éditions du CERF.
Non, c'est pas le dernier. Le dernier, c'est le coup de com permanent.
Ben voilà, je savais qu'il y avait des erreurs sur mes fiches. Merci.
Et mon dernier livre à moi, alors ?
Ben oui, il y a eu du ménage. Vous, votre livre, et effectivement, il vient de paraître sur Nicolas Hulot,
Les paradoxes de Monsieur Hulot,
qui est sorti
pile... Édition L'Archipel, comme ça on dit tout.
Voilà, qui est sorti pile au moment où Nicolas Hulot a démissionné.
C'est improbable.
C'était pour vous, hein, c'était pour votre...
Bien sûr, il m'avait mis au courant.
Bien géré le timing.
Allez, on a pas mal de sujets. On va parler de Manuel Valls, évidemment, à la conquête de Barcelone. On va parler de l'Aquarius, la complexe affaire de ce bateau de réfugiés. Le gouvernement est un petit peu empêtré dans ses contradictions. Jean-Pierre Pernaut a-t-il raison de rendre son cancer public ? Enfin, c'est même pas la question. Il brise un tabou pour la première fois et la transparence, il l'annonce au moment où il est malade. Et puis, les médicaments génériques, seront remboursés. Mais si vous ne prenez pas de médicaments génériques, vous serez moins remboursés. Vos coups de cœur, vos coups de gueule. On va commencer avec Christian, qui a un coup de cœur. Vous êtes positif, vous aimez l'information positive.
Moi, j'aime bien de temps en temps l'information positive. Et effectivement, je souhaite donner un coup de cœur, un coup de chapeau aux chercheurs américains de la Mayo Clinic dans le Minnesota, qui ont mis au point un système de stimulation électrique de la moelle épinière, oui. ce qui a permis à un jeune paraplégique qui avait été victime d'un accident de motoneige de remarcher. Oui. Alors, ce sont des débuts embryonnaires, mais c'est des débuts qui sont porteurs d'espoir pour beaucoup de gens victimes d'accidents de la route et qui ont des liaisons à la moelle épinière.
Oui, c'est effectivement une information. J'aime bien ce tour de table parce que parfois, on apprend des choses et puis l'info positive aussi, ça fait du bien.
Ça serait une info positive, elle date de cette nuit, c'est le 100e lancement d'Ariane 5, qui est quand même une réussite absolument exceptionnelle. Sur le plan européen, il faut le dire, alors dans une Europe un peu spécifique, qui est l'Europe à géométrie variable, l'Europe spatiale, mais il faut le dire, et ce qui me surprend le plus à chaque fois, c'est que finalement, ça devient quelque chose de banal, et ça reste une prouesse technologique absolument extraordinaire. Ouais. C'est un domaine où les Européens ont été leaders, le sont un peu moins aujourd'hui quand même, le domaine de l'accès à l'espace, avec notamment le développement d'un autre lanceur, qui est le lanceur américain SpaceX, sous maîtrise d'Elon Musk. Mais il faut dire que cette réussite, elle est exceptionnelle, elle est due aux agences spatiales aussi, et aux agences spatiales françaises, dont on ne parle peut-être pas suffisamment, et je pense à l'agence spatiale française, qui est le CNES, le Centre National d'Études Spatiales, que je connais bien, puisque j'en ai dirigé la communication il y a quelques années. Ah. Donc, mais je voulais quand même rendre ce coup de chapeau aux ingénieurs de l'ESA, aux ingénieurs du CNES, aux ingénieurs de l'industrie, qui ont quand même réussi à mettre en place une technologie qui fait que l'Europe est quand même un des leaders dans ce domaine. On le dit insuffisamment, on parle souvent de l'Europe qui ne marche pas, il y a parfois l'Europe qui marche.
Et celle-là, donc encore une fois, bravo à Ariane qui a réussi, encore une fois, une prouesse, parce qu'il faut le dire que c'est une chose exceptionnelle. Mmh. Benjamin, Lucas,
Je vais faire un coup de gueule la fois dernière.
Ne vous excusez pas, on aime bien les coups de gueule parce que
j'ai à côté de moi un écologiste et c'est un des sujets dont je voulais parler. Coup de gueule sur le budget qui nous a été annoncé. C'est pas le sujet le plus sexy, mais ils n'ont encore rien compris. On a il y a quelques semaines un appel de Nicolas Hulot qui dit nous sommes impuissants, nous ne mettons pas suffisamment les moyens sur la table pour répondre à ce grand défi qui est le défi de l'avenir de l'humanité, qui est le défi écologique. On a encore un budget perdu et gâché puisqu'on ne met pas les moyens suffisants pour engager véritablement et totalement la transition écologique. On a un attachement des Français aux services publics et on a encore une nouvelle saignée dans les postes de fonctionnaires et donc dans les services publics. On aura des postes en moins dans l'éducation nationale et donc l'avenir des enfants qui, une fois de plus, est mis en danger. Donc, une fois de plus, ils n'ont rien compris et là où il y a des attentes fortes de nos concitoyens, eh bien, le gouvernement fait beaucoup de cynisme. On nous fait des grands discours, on nous annonce des priorités et puis derrière, quand il faut mettre les moyens sur la table, on ne les met pas.
Oui, paradoxe, alors qu'Emmanuel Emmanuel Macron, en ce moment même, est à l'ONU pour recevoir le
champion prix de la Terre.
Champion de la Terre.
Comme 10 autres personnes, elle n'y est pas tout seul.
Oui, mais...
Ça n'enlève rien à ce, oui. à ce prix. Mais
ça c'est... n'enlève rien à ce prix, mais enfin, c'est quand même un paradoxe. C'est vrai qu'il y a Donald Trump aussi qui y est. Hein.
Mais, pas dans les 10 quand même.
Mais pas dans les 10, non, pas dans les 10. Jean-Luc Benhamia, c'est une réaction à ce que vient de dire Benjamin Lucas ?
Oh bah, c'est clair et net qu'on ne fait pas les efforts suffisants. Et moi, ayant écrit un bouquin sur Nicolas Hulot, qui raconte les paradoxes qu'il raconte lui-même. C'est-à-dire, quand il part sur une émission, sur une autre chaîne de radio, et c'est clair, il est sur des fondamentaux. Et il dit, si on va à la vitesse à laquelle on va aujourd'hui, financièrement, mais aussi dans les décisions politiques, française, européenne, internationale, le changement climatique va continuer à exister et à augmenter. J'y vais rapide. Hein. Bon, moi, j'ai un coup de gueule.
Oui.
J'ai un coup de gueule, et ça va de pair avec un des sujets dont on va parler juste après, c'est le fait que depuis presque un an maintenant, plus d'une dizaine de démocrates catalans sont toujours en prison. Mmh. Ce qui est une aberration totale en Europe. Et qui va jouer, qui joue un rôle, à mon avis, destructeur pour l'Europe, quand on pense qu'il y a les élections européennes dans à peine un an maintenant, avec, je ne dis pas, je prends pas position sur indépendance ou pas indépendance par rapport à la Catalogne, là n'est pas le problème, mais que des gens élus démocratiquement, qui n'ont fait strictement aucune violence, et qui ont simplement organisé un référendum, ou soutenu un référendum, soient depuis un an toujours en prison, j'ai des amis dedans, hein, j'ai des leaders politiques qu'on connaît, que j'ai connus moi, notamment au Parlement européen, voilà, c'est très mauvais pour l'Europe.
Ouais.
C'est un très mauvais signe, quelle que soit l'idée qu'on ait par rapport à la structure européenne, sur le fait que chacun veut de l'autonomie, machin, ou de l'indépendance. Mais c'est quand même quelque chose de très grave. Et j'ai un coup de cœur rapide sur le fait que c'est pas souvent que le comité olympique français met en œuvre un engagement. Il faut une pétition pour soutenir le sport français. Et moi, ça va de pair avec ce que je pense et ce qu'on aura d'utile par rapport aux Jeux olympiques. Le fait que, je reparle le budget malheureusement, le fait que le budget du sport et les emplois aidés dans le sport soient cessés, cette pétition est là-dessus. Voilà. C'est organisé par Denis Messiglia, qui est le président du comité olympique. C'est plutôt positif. Hein. C'est-à-dire que c'est rare que les sportifs
se mobilisent.
Voilà.
Moi, j'avais un coup de gueule et coup de cœur. Enfin, oui, c'est plutôt un coup de gueule. C'est ce kiosquier. Il n'y a plus de kiosquier à Paris. Donc, coup de cœur pour ce kiosquier qui continue à faire son boulot et qui a décidé de jeter l'éponge à Barbès parce qu'il n'en peut plus de la situation qu'il a sous les yeux, c'est-à-dire vol de cigarettes à la sauvette, arrachage de colliers, vol en tout genre. Et la situation est devenue insupportable et on se dit comment aujourd'hui on peut en arriver là. Ça rejoint un coup de cœur-gueule qu'avait fait Sophie de Menton il y a quelques jours sur le fait qu'il y avait une application de chaperon qui s'organisait pour accompagner les femmes qui ont peur de rentrer seules chez elles le soir. Comment aujourd'hui on en est à se protéger ou à démissionner face à une telle violence et une telle délinquance? Je trouve ça assez terrible. Et puis les kiosquiers disparaissent de plus en plus des grandes villes.
Surtout que le métier de kiosquier est quand même extrêmement difficile.
Oui, non, mais c'est vrai. Et puis les gens lisent de moins en moins. Christian, qui connaît bien la presse, vu les derniers chiffres de la presse écrite, c'est une catastrophe.
C'est une tragédie.
Une tragédie,
Une tragédie, c'est un métier qui est en train de disparaître.
Dans le micro, Christian.
C'est une tragédie, c'est un métier qui est en train de kiosquer de disparaître
et un
vecteur de communication qui est mis en péril. Alors c'est très très vrai pour les quotidiens, c'est très très vrai aussi, encore plus peut-être pour les hebdomadaires.
Ouais. Les news sont en grande difficulté.
Ouais. Ah oui, exactement.
Sont moins 20, moins 30% pour
Et pourtant,
certains.
La lecture reste essentielle.
Absolument. Allez, on se retrouve dans un instant pour commenter l'annonce de Manuel Valls, la tentation de Barcelone. Qu'en pensez-vous? 0826 300 300, on en parle dans un instant.
Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert.
Retour avec vous en direct sur Sud Radio, 0826 300 300. Manuel Valls a finalement, c'était un suspense intense, annoncé qu'il serait candidat à la mairie de Barcelone. Qu'en pensez-vous? Encore une fois, je vous redonne le numéro 0826 300 300. Est-ce que c'est un pari osé? Est-ce qu'il est opportuniste ou est-ce que c'est une fuite en rase campagne? Christian de Villeneuve?
Non, écoutez, moi je ne suis pas du tout choqué par cette candidature. C'est un citoyen européen qui postule
binational, qui postule
à la gestion, à la responsabilité d'une grande métropole, européenne. En plus, sur le plan personnel, il vit désormais avec une compagne espagnole. Voilà. Donc, je trouve que c'est un très bon symbole de l'avancée si tant est, de l'avancée de l'Europe. Après, on peut regretter le départ de Manuel Valls de la scène politique française, parce que c'était un vrai homme d'État. En revanche, on peut le comprendre aussi. On peut le comprendre dans la mesure où je crois qu'il a fait des offres de services qui n'ont pas reçu d'écho, et que c'est vrai que le siège de député ou l'Assemblée nationale est quand même une chambre d'enregistrement. Était sans doute un espace trop étroit pour lui.
Mmh. Alors on a Mohand qui est en ligne avec nous, qui voulait réagir. Bonjour.
Oui, bonjour Valérie, bonjour à l'ensemble de l'équipe. Je vous remercie de me prendre et de me donner la possibilité de m'exprimer. Écoutez, sur le cas de M. Manuel Valls, c'est assez croustillant. C'est assez croustillant parce que, si je me souviens bien, Manuel Valls, un peu comme Marine Le Pen, était le chantre de l'identité, de la nation, de la République, etc., etc. Et là, effectivement, le fait qu'il soit binational lui permet de pouvoir être élu à Barcelone. Alors, est-ce que je suis pour, est-ce que je suis contre? Ben moi, je dirais que tout dépend sur quel plan on positionne cet acte. Est-ce qu'on le positionne sur un plan identitaire ou un plan purement politique? J'ai envie de prendre l'exemple des joueurs binationaux de football, à qui on reproche aussi pas mal de choses, c'est-à-dire que tant qu'ils n'ont pas revêtu le maillot de l'équipe de France, ils peuvent jouer pour l'équipe du pays d'origine et souvent d'Afrique. Pourquoi pas alors Manuel Valls en tout cas, je me pose des questions réellement sur ses valeurs et sur ses contradictions. J'imagine si quelqu'un binational faisait ça, qu'une personne lambda, on lui ferait un reproche certainement. Et moi, je considère tout de même que si c'est sur un plan visionnaire, il est vraiment très visionnaire, comme l'a dit votre invité. On va peut-être justement avoir un gouvernement mondial, pourquoi pas, hein, si on est, il est peut-être précurseur.
Donc vous dites qu'il a, en tout cas, vous comprenez pas, vous dites qu'il y a une contradiction chez Manuel Valls dans cette position-là. Merci. On va essayer de débattre de ce sujet, les uns et les autres. Il a toujours dit, il est né en Espagne, il a la nationalité espagnole.
Il a toujours assumé sa double nationalité, ses racines, il les a mises en avant. Moi, ça ne me choque pas sur un plan personnel, mais par contre, c'est une nouvelle vie qui commence. Et cette année, elle est quand même sans retour. Hein, c'est-à-dire que je le vois ça, mal revenir aujourd'hui.
Tout à fait.
Possible, mais dans le champ politique français, ça sera plus compliqué.
Manifestement. Sur la phrase, tant qu'on n'est pas mort,
c'est évident. Oui, la vie est longue en politique, mais peut-être un peu moins aujourd'hui, d'ailleurs. Mais enfin, passons. Par contre, ça révèle quelque chose du fonctionnement de la Macronie, surtout. Parce que finalement, et c'est ça qui est plus intéressant, en tout cas, vu de notre fenêtre nationale, française, c'est que, et vous l'avez rappelé implicitement, c'est que finalement, Manuel Valls avait rallié Emmanuel Macron. Il avait fait, et ça se sait, un certain nombre d'offres de services, et ces offres de services n'ont pas été acceptées. Donc, ça veut dire que quand même, au sein de la Macronie, on a une conception de la politique qui est une conception relativement hégémonique. En tout cas, c'est le sentiment que ça laisse transparaître. Et que on reste rassemblé quand même autour du noyau historique, du noyau dur qui a constitué cette aventure absolument improbable qui était la marche en avant, si je puis dire, d'Emmanuel Macron. Moi, je pense que ça traduit surtout les faiblesses d'un fonctionnement politique, in fine. Parce que Emmanuel Macron aurait finalement accepté, je veux dire, de donner un rôle à Manuel Valls. Je ne suis pas sûr que Manuel Valls aurait quitté Évry pour aller à Barcelone, d'autant plus qu'il se lance quand même dans une aventure qui, politique,
qui est
me semble
périlleuse,
extrêmement électoralement périlleuse. Je ne suis pas sûr que les Catalans l'attendent aujourd'hui et que les Barcelonais l'attendent.
Non, tout le monde dit que c'est très risqué. Enfin,
donc c'est extrêmement risqué.
C'est
ça manque, et, de ce point de vue-là, ça manque pas de panache. Mais moi, en tout cas, ce départ, il a pour moi quelque part, il illustre quelque part le fonctionnement interne de ce qu'est le mouvement En Marche, de ce qu'est aujourd'hui la Macronie, et je pense que ça nous dit quelque chose, en tout cas, sur ce fonctionnement.
Benjamin Lucas, Benoît Hamon a déclaré que, il a dit, je pense que Manuel Valls est lucide sur le fait que les gens ont tourné la page et qu'il tourne la page lui aussi.
Oui, non, moi j'ai ni ni bien ni pas bien. Par ailleurs, moi, lire Manuel Valls et démission dans une même phrase, je vous avoue que c'est une déclaration que j'ai beaucoup attendue quand j'avais d'autres responsabilités et que Manuel Valls faisait beaucoup de mal à la gauche dans ce pays. Par ailleurs, j'ai qu'un conseil à donner à mes amis de gauche catalans, c'est laissez-le parler. Et moi, je serais ravi d'aller filer un coup de main et mener campagne là-bas. Parce que je lis beaucoup de choses sur les réseaux sociaux. Il y a beaucoup de grincheux.
Ouais, ouais.
Tout le monde. Et on a des jugements très arrêtés sur Valls. J'ai même lu qu'il avait trahi son pays. Etc. Non, moi, je suis pour qu'il y ait un débat européen. Moi, je suis profondément fédéraliste, d'ailleurs. Je suis pour qu'il y ait un débat européen, qu'il y ait une droite européenne, une gauche européenne et qu'elle s'oppose démocratiquement. Et ben, c'est bien. Par ailleurs, il aura quelques contradictions à résoudre. Manuel Valls, il se décrit comme républicain. Il va dans une monarchie. Il va être allié de la droite espagnole qui est profondément monarchiste. Donc, voilà. Moi, encore une fois, ça me permettra d'assister à la prochaine défaite électorale de Manuel Valls et on verra ce qu'il en sera en Catalogne. Je donne juste un dernier conseil à mes amis catalans, c'est attention, c'est s'il s'engage à rester, nous on sait avec Jean-Luc Benamias pour l'avoir vécu dans une primaire, que des fois il signe des papiers Manuel Valls où il s'engage à être loyal à des gens, à des causes, etc. Bon, c'est pour ça qu'il trahisse aujourd'hui, il faut qu'il trahisse.
Ouais, est-ce qu'il trahit ? Est-ce que c'est une trahison ? Il
abandonne,
il n'a pas été
le seul. Hein.
Attends, on peut dire, je pense qu'il y a quand même. Allez, je vais être un peu plus sérieux. Je pense qu'il y a quand même une question aussi, au moment où l'extrême droite est aussi forte dans notre pays et partout en Europe, de crédibilité des responsables politiques. Et solliciter un mandat il y a un an et demi pour l'abandonner après, ça ne fait pas très sérieux. Bon, moi, ça ne me surprend pas, puisqu'il avait sollicité des mandats d'électeurs d'une primaire, celle de la gauche, pour ensuite soutenir Emmanuel Macron et trahir son engagement. Bon, ça ne fait pas très sérieux, ça ne participe pas à la crédibilité. Après, moi, ça ne me choque pas qu'il soit candidat à Barcelone. Ce qui m'importe, c'est comment aujourd'hui cette ville restera une ville de gauche, parce que je crois qu'il y a besoin que les grandes capitales européennes soient des villes écologistes, des villes solidaires, et donc des villes de gauche. Il y a une candidature de gauche à Barcelone, moi je la soutiendrai, et s'il faut aller prêter main forte, je prendrai mon billet.
Vous irez aider Manuel Valls?
Non, pas Manuel Valls, j'irai prêter main forte à la gauche catalane, dont Jean-Luc Benamias parlait tout à l'heure. Surtout pas. Je souhaite qu'il y ait un débat européen. Emmanuel Valls, je le combattais en France, je le combats ailleurs, parce que c'est lui. Mais parce que je pense que les idées qu'il représente sont mauvaises pour l'Europe.
Jean-Christophe Lagarde, vous avez vu sa déclaration, a dit que c'était un très bon Premier ministre avec un mauvais président de la République.
Ouais. C'est intéressant. Moi, ça ne me gêne pas. Sur le côté européen, on a le droit de se faire élire quand on vit 5 ans dans un pays. Lui, il a double nationalité, donc il peut le faire. Alors, le pari est risqué, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Je connais Emmanuel, évidemment, et je trouve que c'est sans retour pour une raison. C'est que rien n'est obligatoire dans cette affaire. Et pour qu'il gagne, il faudrait encore que la Catalogne soit plus la Catalogne, quoi. Il a un point de vue qui est très anti-indépendance de la Catalogne. Ouais. Je sais que sur Barcelone, c'est un peu différent.
C'est pas le cas à Barcelone. Hein.
C'est pas majoritaire, mais...
Ouais. Le groupe électoral permet de gagner sans être majoritaire.
Oui, mais c'est justement, ça tout dépend de qui fait des alliances. Or, les alliances des Catalans entre eux,
Barcelone
c'est pas que la gauche catalane, tu l'as remarqué, ouais. Benjamin, c'est la gauche catalane, puis aussi un certain centre-droit qui est catalan. Et si ces gens-là sont ensemble, Manuel n'a aucune chance. Et donc c'est là où c'est relativement courageux. Pour le reste, ça ne m'étonne pas que Emmanuel Macron et ses amis très proches. Chacun a bien remarqué que Manuel Valls n'a jamais été strauss-kahnien. Je ne dis pas que tous les strauss-kahniens étaient avec Emmanuel Macron, mais enfin l'équipe jeune autour était plutôt issue de la bande, des soutiens de Strauss-Kahn. Voilà.
Et tout, Macron, il mène aujourd'hui la politique que Valls voulait mener pendant des années. Politique brutale sur le plan répressif, une politique ultra-libérale sur le plan économique. C'est pour le coup, Valls a préparé Macron.
En très grande partie, mais comme ça, il est en train de le quitter.
Mais c'est comme des grands frères, ils sont fâchés.
Voilà.
Au final, ils ont le même ADN.
C'est ce côté. Il va vivre une autre vie.
Exactement.
Voilà. Bon, j'en pense pas moins sur le fond politique, parce que tout ça est très risqué. Et surtout, il n'est plus au centre gauche du tout.
Fait longtemps. Hein. Des chances de nationalité, loi travail, travail du dimanche, ça fait très longtemps qu'il n'est plus de centre gauche.
Ça n'a échappé à personne, sauf qu'il était dans un gouvernement de centre gauche.
De centre gauche.
Et qu'il avait un président de centre gauche qui s'appelait François Hollande. Donc après, on peut tout dire. Effectivement. Donc c'est voilà, c'est, il va être Ciudadanos, dont on dit qu'il c'était un parti de centre droit. Je m'excuse, c'est le remplaçant aujourd'hui du Parti populaire espagnol qui est en train de qui chute parce que pour des histoires d'affaires et autres. Et il est soutenu par la droite espagnole. C'est autorisé, hein, il y a pas de mal. Mais ça va être compliqué. Il est quand même dans une contradiction importante.
Allez, on se retrouve dans un instant. On va parler de Jean-Pierre Pernaut qui a rendu public hier son cancer, un cancer de la prostate. C'est une des rares fois, une des premières fois, je pense, qu'un présentateur vedette comme lui prononce ce mot de cancer et l'annonce au moment même où il est en convalescence. Est-ce qu'il a brisé un tabou? Est-ce qu'il a raison? Est-ce que vous êtes, vous, sensible à cette communication? On y revient dans un instant. 0826 300 300.
Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert.
Avec vous en direct sur Sud Radio, on va parler de Jean-Pierre Pernaut, présentateur vedette du journal de 13h de TF1. Il a fêté les 40 ans de son journal, c'est les 30 ans ou les 40 ans? Les 40 ans de son JT il n'y a pas longtemps. Il a donc annoncé qu'il prenait un peu de repos puisqu'il a un cancer de la prostate. On en parle. Benjamin Lucas, membre de Génération.S, ancien président du MJS. Jean-Luc Benamias, président du Front démocrate, membre du CESE. Vous avez publié « Les paradoxes de Monsieur Hulot » aux éditions de l'Archipel. Christian de Villeneuve, journaliste politique. Et Arnaud Benedetti, professeur à la Sorbonne, spécialiste en communication politique. Et votre dernier livre, « Le coup de com' permanent » aux éditions du CERF. Alors, Christian, c'est vous qui m'avez suggéré ce sujet. Et effectivement, ça fait beaucoup parler, ça...
Non, parce que, bon, d'abord c'est courageux à plus d'un titre. D'abord ce qui est bien, c'est qu'il a, bon, il a joué la transparence et il a qualifié sa maladie de cancer et non pas de longue maladie, comme on voit trop souvent. Donc ça permet entre autres de banaliser un peu cette maladie qui touche de nombreux malades et ça doit rassurer un peu certains malades. C'est courageux également parce que c'est le cancer de la prostate. Le cancer de la prostate font parfois l'objet d'ironies mal placées. Et il l'assume complètement. Je trouve ça exemplaire.
Oui, oui. Les uns et les autres, Benjamin Lucas.
Ouais, moi, Jean-Pierre Pernaut, c'est un amiénois comme moi. Picard, il fait beaucoup pour la promotion de cette ville. Donc, partie de ceux qui ont grandi. Alors, on aime, on n'aime pas, on a un jugement sur son journal, etc. C'est pas l'objet. Mais en tout cas, il fait partie du patrimoine du paysage, de ma ville. Et, et depuis plus longtemps qu'Emmanuel Macron, dans beaucoup de choses. Donc, dire à la fois le oui, sans doute du respect devant son attitude, son courage, et puis lui souhaiter du rétablissement, lui souhaiter de se soigner et de revenir vite, notamment à Amiens, parce qu'effectivement, c'est une figure que nous connaissons tous, qu'on aime, qu'on n'aime pas, qu'on ait des coups de gueule. Moi, j'ai eu un nombre de coups de gueule impressionnants devant ces journaux, mais c'est une figure qui marque au-delà d'Amiens, d'ailleurs, beaucoup d'entre nous.
Oui. Jean-Luc Benamias, vous avez dit...
Il faut arrêter avec l'hypocrisie. Non, mais après, chacun fait comme il veut.
Parce que c'est pas facile.
J'entends bien, moi, chaque fois qu'on dit longue maladie...
En général, c'est quand on est mort. C'est dans les avis de décès où il y a marqué « mort des suites d'une longue maladie ».
Oui, bon, ok. Je vais dire hors antenne, je ne vais jamais cacher que j'ai moi-même un cancer. La preuve, je suis encore là. Ça fait plusieurs années.
Non, mais c'est bien.
Je n'ai jamais caché. Après, il n'y a pas de revendication. Je trouve ça. En plus, je lui dis, j'espère que tout ira bien, mais un cancer de la prostate, ça se soigne vachement bien maintenant.
Patrick Chen en a fait un livre.
Pas le genre de cancer. Il y a des cancers qui se soignent moins bien. J'en profite pour dire qu'on fait, heureusement par rapport à ça, j'en suis une preuve, il y a des avancées gigantesques. Ouais. Quand je dis ça, je sais aussi qu'il y a malheureusement plusieurs dizaines de milliers de morts, parce qu'il y a certains cancers, et c'est selon les personnes qui, même s'ils soignent pour certains, et pour certaines, pour d'autres, ça ne soigne pas.
Donc, c'est un message de prévention, d'une certaine manière aussi, puisque Jean-Pierre, des gens vont peut-être se dire... il a 66 ans, Jean-Pierre Pernaut, cancer de la prostate, peut-être que moi, je devrais aussi aller me faire examiner. Sens ça dans ce message, c'est-à-dire de dire, ça existe, ça atteint tout le monde, parlons-en.
Moi, je pense aussi de dire, attention, vu que ça se soigne de plus en plus et qu'on fait... Vraiment, il y a des thérapies aujourd'hui... extrêmement forte qui commence à avancer. J'ai encore lu des thérapies génétiques qui sont existantes par rapport à un certain type de cancer. Je pense que le fait que ce soit une grande figure médiatique qui dise ça peut aider beaucoup de gens à se dire, allez, je suis pas obligé de mourir.
Non, puis ça reste la question des rumeurs, pardon.
Sur la question de la, non, mais juste sur la question de la transparence, on a le droit, à un moment donné, de ne pas tout dire aussi. Je veux dire, c'est aussi, c'est un droit, je veux dire, de la personne. Il ne faut pas non plus céder à cette injonction de transparence dans laquelle on veut quand même aussi nous engouffrer. Par contre, non, c'est, le message est intéressant parce qu'il, en fait, il se sert de sa notoriété pour envoyer aussi un message d'espoir aux, aux personnes qui sont malades, en disant finalement, le cancer n'est pas une maladie honteuse, loin de là. On peut en parler. C'est quelque chose qui est aujourd'hui, malheureusement, fréquent, qui se combat, et donc de, je trouve que voilà, c'est surtout dans ce sens-là qu'il faut, je pense, décrypter et analyser ce message comme un soutien aux anonymes qui, eux, sont malades et qui ont besoin, bien évidemment, à la fois de la thérapie et aussi de la compassion.
C'est pas de la pub, hein.
C'est vrai que ça a longtemps été une maladie honteuse, en tout cas, qu'on cachait, dont on ne parlait pas.
Parce que la mort était souvent...
On voyait la mort.
Parce que derrière, vous avez le visage de la mort, qui, malheureusement...
Ce que dit Gisbert, quand on apprend ça...
Oui, c'est ce que dit Gisbert.
On apprend ça... Moi, j'ai pas écrit là-dessus, mais quand mais j'apprends ça, on a 2-3 semaines avant de savoir à quel niveau on en est, où on est.
Non, mais il est pas le.
On
n'est pas bien du tout.
Il est pas le premier. Il est quand même pas le premier à l'avoir fait.
Non, à le faire au moment de la maladie, c'est-à-dire que on.
Il le fait après.
Voilà. En général, ils le font après. Les gens le font après ou pendant, au bout d'un moment. Là, il le dit au début de l'aventure, j'ai envie de dire aventure qui lui arrive. Donc c'est transparence et puis bien qu'on parle de cette maladie qu'on de l'assumer voilà. Et puis de dire effectivement qu'il y a du dépistage et des traitements. Voilà. Allez, on va passer à un autre sujet. On va parler peut-être de la l'Aquarius, qui est ce bateau que la France a décidé de ne pas accueillir à Marseille. La France a pourtant dit qu'elle accueillerait un certain nombre de migrants. Je crois que c'est 15 ou 18.
18.
Compliqué de se renvoyer. On en a un petit peu parlé hier. Benjamin Lucas, Benoît Hamon, lui, était pour qu'on accueille l'Aquarius.
Oui, depuis le début, il est l'un des seuls à ne jamais avoir dévié tout celui-là. Mais moi, j'ai une grande émotion sur ce sujet parce que comme des millions de Français, au deuxième tour de l'élection présidentielle, j'ai mis un bulletin de vote sur lequel il y avait marqué Emmanuel Macron dans l'urne, uniquement pour empêcher l'extrême droite d'arriver au pouvoir dans notre pays. On était des millions à faire ça. C'est ce qui a donné à Emmanuel Macron une victoire large face à Marine Le Pen. Et qu'est-ce qu'on a aujourd'hui ? Des femmes, des enfants, des hommes qui meurent en Méditerranée tous les jours et le gouvernement français, au mieux, détourne le regard, laisse la situation s'empirer, et au pire, ce qui est en train d'arriver, cède à un ministre fasciste en Italie. C'est aujourd'hui M. Salvini qui fait l'agenda européen. C'est aujourd'hui M. Salvini qui dicte sa loi au gouvernement français et à d'autres. Et donc, on pourrait décliner les exemples comme cela sur lesquels nous ne faisons plus rempart à l'extrême droite. Quand on a la politique d'asile et d'immigration menée par Gérard Collomb, on mène la politique qu'aurait menée au ministère de l'Intérieur un Philippot ou un Collard. Quand on a aujourd'hui...
Je pense qu'ils n'auraient pas accueilli de migrants du tout.
Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle fait la France ? Elle ferme ses ports, elle ne propose pas à la Croix-Rousse d'avoir un pavillon français. Elle mène la politique qu'aurait mené un gouvernement de droite dure, voire d'extrême droite sur ce sujet. Donc on peut encore une fois, c'est là tout le cynisme de la Macronie qui devient insupportable, c'est une indécence. Faire des grandes déclarations à l'ONU, faire des grands discours, dire « nous sommes les progressistes ». Mais ils sont où les progressistes quand il s'agit d'accueillir 58 personnes ? Moi je pense, et j'en appelle ici, à un réveil des humanistes. C'est-à-dire, aujourd'hui, Macron essaye de nous vendre, à l'occasion des élections européennes, un match, en disant, il y a d'un côté les nationalistes et de l'autre, moi qui suis le rempart progressiste, mais il est où le rempart progressiste quand en fait, c'est Salvini qui décide l'agenda d'Emmanuel Macron, qui décide la politique de la France. On est dans cette situation-là qui est révoltante, parce que c'est 58 personnes, là. On fait des grands discours pour dire, là, la solution est globale, elle est européenne, sans doute. Mais enfin, à un moment donné, c'est la France. Macron, il a été élu... Attendez, je finis là-dessus. Il a été élu pour ça. Emmanuel Macron, il fait 24% au premier tour de la présidentielle. Et sur ces 24%, il y a une partie de gens qui le faisaient parce qu'ils avaient la trouille d'un second tour entre Fillon et Le Pen. Et qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui de ces millions de suffrages qui se sont portés uniquement pour battre l'extrême droite ? Rien du tout.
D'Emmanuel Macron hier à l'ONU, il dit ne pas céder aux bons sentiments. J'ai conscience parfois de donner le sentiment de ne pas céder à des bons sentiments faciles, mais si je suivais cette voie, elle nourrirait des extrêmes xénophobes dans notre pays. Elle ne réglerait pas durablement la situation.
Donc l'argument là-dessus, c'est de dire je cède à l'extrême droite. parce que si je ne lui cède pas, c'est elle qui progresse. C'est encore une fois, moi, je veux bien qu'on fasse tout ce qu'on veut avec de la communication, avec des mots, mais ça ne veut plus rien dire.
Il y a plusieurs choses. Vous avez raison de rappeler que finalement, la raison du succès d'Emmanuel Macron, c'est pas son projet, c'est d'abord le fait qu'il était un barrage par rapport au Front National. Et ça, c'est, je crois, quelque chose qui est absolument essentiel pour comprendre les raisons pour lesquelles il est devenu président de la République. Et on l'oublie un peu trop souvent. Par contre, ce force est de constater, c'est que Macron, depuis qu'il a accédé à l'Élysée, il part d'un constat qui est très simple, mais qui est certes peut-être cynique à vos yeux, mais qui constitue une réalité, c'est que l'opinion publique, dans sa grande majorité, en France et en Europe encore plus, est vraisemblablement aujourd'hui extrêmement restrictive vis-à-vis de cette question des migrants. C'est-à-dire que, globalement, si vous regardez toutes les études d'opinion, elles montrent manifestement, alors on peut le regretter, c'est un fait, mais elles montrent clairement une opposition assez massive à l'accueil des migrants. Donc, Emmanuel Macron est de ce point de vue-là assez réaliste dans sa perception de l'opinion publique.
Et ça ne gêne pas d'aller contre l'opinion sur tout le reste. Ça ne le gêne pas.
Cette question, parce qu'il considère que cette question est vraisemblablement l'une des questions les plus clivantes aujourd'hui de la société française et de la société politique. De la société politique, peut-être plus que de la société dans ses profondeurs, parce qu'encore une fois, l'opinion me semble assez là-dessus, relativement, je veux dire, assez claire et assez explicite dans son expression. Donc il fait ce pari. C'est un pari éminemment conservateur, je vous le concède, mais c'est un pari réaliste et en plus. Clairement, vous avez une pression quand même d'un certain nombre de pays aujourd'hui européens. Tout ce qui se passe actuellement dans la Middle Europa, c'est-à-dire dans l'Europe orientale, dans l'Europe de l'Est et jusqu'en Italie aujourd'hui, constitue malgré tout une pression supplémentaire pour les pays qui seraient susceptibles d'avoir une politique un peu plus ouverte vis-à-vis des migrants.
Je vois à l'instant, l'armée marocaine tire sur une embarcation de migrants. Un mort, 3 blessés.
Vision.
Autre solution. Pardon, attendez, Christian.
Notre ami est très excessif. Et puis,
vous parlez de Benjamin Lucas et de son argumentation.
Exactement. Ouais. Est très excessif. Et je pense, je crois que c'est ridicule d'assimiler la politique Macron à celle de Salvini.
Je ne l'assimile pas. Vous l'avez dit. Aujourd'hui entre Salvini et Macron. Non. Ils ne sont pas accueillis dans un port français, ils ne sont pas accueillis dans un port italien. Non, c'est factuel.
Sauf que je pense que la question de l'Aquarius, pour l'instant, est une question humanitaire à laquelle on doit répondre effectivement. Et effectivement, on doit recevoir les 58 migrants. Mais. Je crois qu'on arrivera, à chaque fois qu'il y aura un bateau, à chaque fois qu'on relancera ce débat, tant qu'il n'en mettra pas au point, et c'est un défi pour l'Europe, un système de régulation, comme ce qui va se passer pour les 58 membres, de 58 migrants de l'Aquarius, entre le Portugal, l'Espagne. Donc, je crois que la population française, elle est peut-être majoritairement contre la migration sauvage. Le jour où on sera capable d'expliquer pour qui, quand ou comment on organise c'est une migration qui est durable et inéluctable, je pense que l'opinion française peut évoluer.
On l'a fait dans les années 80 et 90. Le discours sur l'immigration, une chance pour la France, c'était un discours qui a été martelé par toutes les élites durant 20 ans. Résultat des courses, plus les années passent, plus le rejet est manifeste. Donc ça veut dire que même la communication politique a échoué là-dessus.
Parce que qui aujourd'hui dans le débat politique assume un discours volontariste et humaniste sur cette question? Personne. Donc évidemment qu'elle ne progresse pas dans l'opinion sur cette question des migrants.
Vous l'assumez à gauche, monsieur Mélenchon l'assume.
Benoît Hamon dans l'élection présidentielle, qui a tenu aujourd'hui un discours, moi je vais vous dire, pas excessif, réaliste. Parce que vous pouvez augmenter la taille des murs, plus il y aura du dérèglement climatique, plus il y aura de la misère, plus il y aura des guerres. Et par ailleurs, pour moi c'est un droit de l'homme, un droit humain, celui de migrer. Parce que par ailleurs, on n'est pas choqué quand des Français vont s'installer à Londres, etc. Donc il y aura toujours, c'est l'histoire entière de l'humanité, des mouvements de population, d'immigration. Est-ce que nous mettons des murs? Mais plus le mur sera haut, plus ceux qui construiront des échelles essaieront de les construire plus hautes. Et donc il faut assumer là-dessus un discours réaliste. Mais encore une fois, tant que les humanistes ne se réveillent pas dans ce pays et en Europe, avec un vrai discours volontariste, effectivement, nous laissons l'extrême droite gagner sur le champ idéologique et gagner dans le champ culturel en faisant du migrant un bouc émissaire à chaque fois. Alors, moi, je ne suis pas pour les discours, une chance, j'en sais rien. Ce que je sais, c'est qu'il faut qu'on arrête de céder toujours à la pensée dominante aujourd'hui de l'extrême droite qui a irrigué, y compris à gauche.
Allez, on se retrouve dans un instant, Jean-Luc Benhamias, vous aurez la parole. On est là, justement, c'est un teasing. C'est un teasing. Jean-Luc Benhamias aura la parole dans quelques secondes. Restez avec nous sur Sud Radio.
Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert.
Avec vous jusqu'à midi en direct, vous retrouverez ensuite André Bercoff. Nous parlons donc de l'Aquarius. La France doit-elle accueillir ce bateau avec 58 migrants à son bord? On ne vous a pas entendu, Jean-Luc Benhamias, sur le sujet.
Je voulais bien prendre la parole.
Oui,
mais
allez-y.
Non, il faut arrêter par rapport à ça l'hypocrisie, le fait de penser qu'en mettant la tête dans le sable, tout va bien se passer, parce que c'est, de toute façon, les migrations vont continuer. Alors, comment on explique tout ça aux populations? En essayant d'éviter, bien évidemment, que l'extrême droite, les populistes, enfin surtout l'extrême droite, et les différents fascistes, utilisent tout cela. C'est évidemment extrêmement complexe. Mais la façon dont on s'y prend, la façon dont le gouvernement s'y prend, la façon dont Emmanuel Macron, le président de la République, s'y prend, en disant « mais c'est à mal de recevoir ». Doucement, si on demande à ce que l'Union européenne, et c'est pas simple d'avoir une politique de l'Union européenne, encore plus aujourd'hui qu'hier, puisque personne n'est d'accord avec rien. En gros, Madame Merkel, elle a fait le travail pour les migrants il y a maintenant 2 ans, elle subit une réimplantation de l'extrême droite, voire la nazie dans son propre pays. Et Madame Merkel, on peut tout dire, mais c'est quand même une véritable démocrate. Donc elle est obligée de faire attention. Donc qu'est-ce qu'il faut faire par rapport à cela? Après, je rappelle juste une chose. Hein. L'Aquarius est le dernier bateau associatif allant chercher des migrants en Méditerranée. Quand il n'y aura plus ça, il y aura des dizaines, des centaines de morts en plus. Je ne dis pas que c'est simple. Comment, par rapport à tout cela, puisque je sais que derrière tout ça, il y a des histoires avec des passeurs. Mais qui a permis à la Libye d'être complètement disloquée? Qui a fait que ce pays, qui était un pays relativement stable, je ne soutenais pas, évidemment, comme tout le monde, en Europe,
Kadhafi,
mais quand même, on a une situation totalement instable, où ce sont des gangs, hein, très clairement, qui dirigent. Bien, si un certain nombre de pays, je ne parle même plus de l'Union européenne dans son ensemble, et c'est toute la difficulté. Et la difficulté, c'est que depuis ce moment-là, l'Italie est passée au côté sombre de tout ça. Il faut bien qu'un certain nombre de pays se mettent d'accord. Après, la France peut faire plus d'efforts. Et arrêter de dire qu'on en fait, parce qu'on n'en fait pas beaucoup. Ouais. On n'en fait pas beaucoup par rapport à tout ce qui touche, non pas la Syrie, ça on l'a fait d'efforts.
Parce que dit le gouvernement, hein, qu'on est le deuxième pays en Europe à accueillir le plus de migrants.
Oui, parce qu'on a accueilli beaucoup de Syriens. Mais sauf que là, il s'agit de qui? Quand il s'agit de la Méditerranée, il s'agit de l'Afrique, il s'agit du Soudan, il s'agit de l'Érythrée, enfin, chacun le sait, et d'autres pays en terrible, terrible difficulté, et parfois, terrible difficulté, parce qu'il y a des guerres, mais parfois, parce qu'il y a de la famine. Et donc, qu'est-ce qu'on fait par rapport à tout ça? Alors, chacun dit, bien sûr, on peut faire l'aide au développement, c'est absolument nécessaire, oui, mais si ça suffisait, ça se saurait.
Deux choses sur la Libye, je suis tout à fait d'accord avec vous, sauf que la Libye, je vous rappelle quand même qu'à l'époque, pratiquement l'ensemble de la classe politique française a soutenu l'intervention en Libye. Alors maintenant, aujourd'hui, on peut, en effet, avoir une parole de regret, de remords vis-à-vis de cette intervention qui était certainement stupide et qui a créé aujourd'hui les conditions du chaos dans lequel on se retrouve. Mais la réalité, c'est qu'encore une fois, sur le moment, l'ensemble de la classe politique, à l'exception peut-être du Front National, je veux dire, avait soutenu cette intervention. Le deuxième point qui me paraît important, c'est là aussi sur le fonctionnement du macronisme, c'est qu'il est sur une question où le « en même temps » ne peut pas fonctionner. C'est-à-dire que, si vous voulez...
C'est ce qu'il essaye de faire, c'est difficile, l'équilibre.
Mais c'est extrêmement difficile, parce que, et on voit bien, il y a eu déjà des réactions à l'intérieur de son groupe parlementaire, alors des parlementaires très isolés qui se sont opposés à cette politique extrêmement restrictive. Et je pense que là, il est sur une ligne de crête extrêmement difficile et où il aura du mal à faire fonctionner. Autant sur le plan économique, il arrive à peu près à tenir son groupe, autant sur les questions de société comme les questions politiques, éminemment politiques, comme la question des migrations, je pense qu'il aura beaucoup plus de difficultés.
C'est là où ça témoigne, un, de son cynisme, et deux, on dit l'opinion, etc. Enfin,
c'est du pragmatisme.
Mitterrand a été élu en disant j'abolirai la peine de mort, il l'a abolie. On a fini par convaincre les gens que la peine de mort n'était ni une solution, ni une humainement acceptable. Bon, et bien, à un moment donné, encore une fois, si on fait de la politique et si on s'engage, il s'est agi d'être courageux. Il a été courageux, Macron, quand il a fallu trahir Hollande et se présenter à la présidentielle. Il est courageux quand il impose la suppression de l'ISF dont les Français ne veulent pas. Il pourrait l'être sur un sujet qui fait appel à nos consciences. Enfin, là, on n'est pas sur une question de curseur économique, on n'est pas sur tous les débats qu'on peut avoir. Il y a des choses qui devraient rassembler les gens qui considèrent qu'ils sont humanistes, qui sont républicains, qui sont démocrates. Appelez ça comme vous voulez, parce qu'avec Macron, là, le problème de tout ça, c'est que les mots n'ont plus de sens. Parce qu'il dit je suis le bloc progressiste. Moi, je vois pas ce que sont les progrès dans la politique qui est menée. Eh ben, un mec qui a un peu de courage. S'il est vraiment humaniste, qu'il le prouve.
On va passer à un autre sujet. Je voulais avoir votre réaction sur la sanction financière pour le Front National qui a été réduite à 1 million d'euros. C'était une sanction financière donc, qui avait été... la justice ne prendra qu'un million d'euros d'aide publique au Rassemblement National. C'est une... plutôt une bonne nouvelle pour Marine Le Pen qui avait déclaré qu'elle serait en cessation de paiement, enfin que son parti pourrait disparaître. C'était une sanction sur ses comptes de campagne qui était déjà quelque chose qui était un petit peu...
Ce qui est étonnant, c'est que cette saisie
c'est déjà
était,
cette saisie
était,
et
avant la condamnation.
Oui, c'est ça.
Bon, ça, c'est quand même un peu étonnant. Et là, Marine Le Pen a sans doute raison de s'étonner et de protester. En revanche, je pense que les problèmes de gestion, si on écoute les proches de Marine Le Pen, le problème de gestion du Rassemblement National, sont lourds. Je crois qu'ils ont quand même 15 millions d'euros d'emprunts à emprunter. Il y avait même un des proches, un membre du Front National, Rassemblement National, pardon, qui évoquait que les salaires très conséquents de l'entourage de Marine Le Pen. Donc, voilà.
La gestion en famille, c'est toujours difficile.
C'est ça, exactement.
Mais c'est vrai que sur le principe de cette réserve de 2 millions d'euros,
la mesure
conservatoire,
était quand même extrêmement discutable. Ouais. Et le Rassemblement National, pardon, décidément, on a un problème aujourd'hui avec le sigle, mais...
C'est le Front National,
avait un levier, en tout cas, de communication politique extrêmement intéressant. Et d'ailleurs, je note quand même qu'aujourd'hui, Marine Le Pen fait malgré tout un petit retour médiatique. Ouais. Parce que tout simplement, je veux dire, elle met en scène une forme de victimisation qui lui permet malgré tout de retrouver un peu d'air politique, un peu d'oxygène dans un contexte électoral, préélectoral, où les sondages sont plutôt favorables pour elle quand même, parce que tout le monde prédisait un effondrement de la marque mariniste après l'élection présidentielle. Je constate qu'en tout cas les premiers sondages qui sont réalisés pour les européennes montrent que le Rassemblement National reste très haut dans les intentions de vote et talonne largement la République en marche.
Pardon, mais rien ne permettait de le penser, en ce qui me concerne, politiquement, rien ne permettait de
aussi,
le penser.
Mais je suis d'accord
avec lui. Que Marine Le Pen
avait une baisse du Front National. Même si elle avait raté son second le débat du second tour, très bien, ok, tout le monde l'avait vu.
Elle fait 14 millions de voix.
Elle fait beaucoup de voix. C'est exactement pareil que quand on le dit.
Elle a quand même eu un trou d'air pendant un moment.
Mais un trou d'air médiatique. Mais pas un trou d'air dans l'opinion publique. Dans l'opinion publique qui la soutient. Et c'est pareil que M. Wauquiez.
Elle a perdu son identité de candidat possible.
Quand M. Fillon, oui, peut-être.
Et ça, c'est quand même très important.
Quand M. Fillon fait 20% avec tout ce qu'il avait sur le dos, dire que la droite française avait disparu, c'est beaucoup dire. Et quand j'entends dire aujourd'hui que M. Wauquiez, parce qu'il abuse un peu, il n'est pas très bon et tout ça, va pas réussir à faire des scores avec les Républicains, eh bien, j'en doute, je pense qu'il fera des scores, parce que l'électorat, c'est comme ça dans notre pays, et dans les démocraties d'ailleurs, sont extrêmement stables. Ça évolue sur plus ou moins...
Frédéric Dabi nous disait que la chute d'Emmanuel Macron dans les sondages ne profitait à personne, en fait. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de récupération, il n'y a personne en face qui récupère les déçus du Macron.
Et c'est dans...
un réveil des humanistes et de la gauche.
Pardon, Benjamin. Oui. C'est bien pour ça qu'Emmanuel Macron, à ce niveau-là, joue un jeu dangereux. C'est que il sait très bien que, évidemment, pour aujourd'hui
il se choisit encore ses adversaires.
Qui serait monté à 23-24% face à lui. Et donc, il joue là-dessus.
Mais Macron, il se choisit ses adversaires quand il dit je suis le progrès face aux nationalistes, aux populistes. Bon. Mais sur Le Pen, quand même, déjà, elle va peut-être arrêter de se victimiser. C'est bien parce qu'au final, elle aime bien ce genre de séquence médiatique, Marine Le Pen. Il y a des schémas qui sont quand même, on est dans le nouveau monde, enfin, il y a des schémas qui sont quand même historiques. C'est toujours l'extrême droite, le même procédé. On se victimise. On dit tous pourris. Enfin, quand même. même le Front National est le parti qui est le plus concerné par des affaires, notamment financières, les emplois fictifs au Parlement européen, c'est quand même un parti d'escrocs, de voleurs, et partout. Mais quand ils gèrent des collectivités, est-ce qu'il y a une seule collectivité du Front National où il n'y a pas eu des affaires? Je ne crois pas, ou en tout cas très peu. Donc vraiment...
je ne sais pas, vous le dites, moi, je ne peux pas vous répondre. Ouais, je ne sais pas. Donc vous pouvez dire, vous pouvez l'affirmer...
Je vais être plus modéré. Je vais être plus modéré.
Sur le financement des partis politiques, il faut être extrêmement prudent.
Je vais être plus modéré, je vais assumer.
Vous prenez des risques, Benjamin Lucas.
Ils disent tous pourris, mais je pense que le parti où il y a le plus de pourris, pour le coup, c'est eux.
Je ne sais pas si là, vous ne tombez pas sous le coup de la diffamation.
De même que je les traite régulièrement de racistes, parce qu'ils le sont, donc moi, ils ne me font pas peur. Mais c'est l'extrême droite, c'est toujours comme ça. Et ils se victimisent. Et donc, ils font, vous l'avez rappelé, les dépenses de campagne qu'ils ont, la collusion, la famille, le truc. Enfin voilà, tout ça, c'est l'extrême droite historique, c'est la magouille.
Enfin, cette mesure conservatoire qui avait été prise est relativement peu courante.
Oui, bien sûr.
En termes de justice, et,
l'histoire des comptes de campagne des présidentielles est très longue. Oui. Il n'y a pas que Marine Le Pen et le Front National qui est dépassé.
Allez, merci, modeste, là, merci à tous les quatre. André Bercoff vient de nous rejoindre et assiste à Musée à la fin de notre débat.
Oui, tout à fait.
Alors, de quoi allez-vous parler?
Eh bien, écoutez, on va parler d'abord du toréador de Carmen de Bizet.
Oui.
La valse à mille temps, et ce n'est pas fini. Et puis on va parler d'un livre tout à fait choc qui vient de paraître sur les abattages rituels.
Oui.
Ce qui se passe vraiment avec les abattages rituels.
C'est-à-dire que vous avez un auteur qui a enquêté sur, sur tout ce qui est halal.
Il est vétérinaire et il montre combien là-dessus, par trouille, par truc, personne n'en parle, ou très 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 peu bien sûr. Et on adore évidemment les véganes qui attaquent les boucheries et les charcuteries. Mais pas du tout quand on n'étourdit pas les animaux.
Bon, voilà. Mais écoutez, on va vous écouter tout à l'heure. Ce sera à partir de midi.
Si on veut.
Merci à tous les quatre. André Bercoff à suivre après les infos. Nous, on se retrouve demain à 10h.